Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, pression, vaccination. Le gouvernement n'exclut pas de nouvelles mesures de restriction si Omicron continue sa course. Pas de trêve des confiseurs. Le projet de loi sur le pass vaccinal en Conseil des ministres dès la semaine prochaine. Plus de 3000 personnes sont en soins critiques à l'hôpital. C'est un sommet depuis le mois de mai. Les réanimateurs disent leur ras-le-bol face à la marée de non-vaccinés. Toucher le plus de personnes possible. Hier soir au Mans, campagne de vaccination pour les SDF.
Ce qui se passe ce soir, c'est déjà beaucoup. C'est gratuit, avec des pompiers, des médecins, des infirmières. C'est grandiose.
Delta plus Omicron, le point sur le double la double lame de cette fin d'année. Avec notre invité à 13h30, l'infectiologue Karine Lacombe, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos questions. Dans l'actualité encore, que se passe-t-il à Sciences Po Grenoble? Un enseignant suspendu, plus de liberté parole, institut gangréné par le wokisme à le croire. La direction se défend, liberté garantie. Elle avait pointé des propos problématiques sur l'islam. La campagne, Éric Zemmour dans le Dauphiné. La presse n'est pas la bienvenue. Valérie Pécresse en terre chrétienne, l'Arménie. Le Liban s'enfonce encore plus dans la crise économique, témoignage saisissant d'un militaire. Le groupe Bolloré est prêt à vendre son activité logistique en Afrique. Les 30 ans de la disparition de l'URSS, témoignage direct dans ce journal des dernières heures de Gorbatchev à la tête de l'URSS. Vos rendez-vous dans le 13-14, le feuilleton, une semaine dans la vie d'un prêtre à quelques jours de Noël. Dans le vif de l'histoire, le journal intime de l'historien Jean Jacquard. Les fins d'année en famille peuvent être terribles. Et puis la musique avec Anna Sigalevitch cette semaine. La vie serait moins belle sans le triple concerto de Beethoven, répond l'actrice et réalisatrice Nicole Garcia. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
La France entre dans une période de turbulence avec Omicron. À 4 jours de Noël, le porte-parole du gouvernement se fait solennel. Le variant qui représente les 3/4 des nouvelles contaminations aux États-Unis, il est probablement déjà majoritaire en Île-de-France, en particulier à Paris, selon le fondateur du site Covid Tracker. Le point d'interrogation, ajoute Gabriel Attal, c'est la part de cas graves qui nécessitent une hospitalisation. Particularité de cette période, cette Omicron plus Delta, dont les effets, eux, se voient d'ores et déjà à l'hôpital. On est repassé au-delà de la barre des 3000 personnes en soins critiques, c'est une première depuis le mois de mai. Et les médecins réanimateurs le disent, l'écrasante majorité des patients, ce sont des non-vaccinés. Et l'agacement monte chez les hospitaliers qui travaillent dans les conditions difficiles que l'on décrit depuis des mois. En témoigne une tribune de médecins dans la presse du jour, Véronique Julien.
La tribune publiée dans Le Monde est signée d'une quinzaine de professionnels de santé de la région bordelaise. Elle rappelle le serment d'Hippocrate et le fait qu'un médecin doit soigner n'importe quel malade, quelles que soient ses convictions. Pourquoi cette tribune? Eh bien parce que la lassitude gagne les troupes, explique l'un des signataires, le docteur Mathieu Acquier, réanimateur au CHU de Bordeaux. Il décrit un sentiment inédit chez les soignants, de la colère vis-à-vis des non-vaccinés qui embolisent aujourd'hui les services, et il a peur que certains basculent.
Il y a un vrai sentiment d'injustice qui est en train de monter en puissance, un début de qu'on voit s'ouvrir, qui est complètement inédit.
Vous avez le sentiment autour de vous qu'il y a des gens qui commencent à dire « je ne vais pas les soigner pareil ».
J'irai pas jusque-là, mais c'est peut-être l'étape d'après, quoi.
Le ressenti est peut-être là, en effet, beaucoup de médecins se reconnaissent dans cette description, dans ce ras-le-bol. On parle de cette colère entre nous, c'est vrai, dit un réanimateur. Pour autant, pas question pour eux de faire un distinguo vacciné-non-vacciné. C'est juste inconcevable, explique le professeur Stéphane Gaudry. Il est réanimateur à l'hôpital Avicenne de Bobigny.
Bien entendu que je ne vais pas me poser la question quand je prends en charge un non-vacciné. Fumeur, alcoolique, vacciné-non-vacciné, meurtrier-non-meurtrier, pédophile, pas pédophile, ça change rien du tout. On fait la même médecine. On a été formé comme ça et ça ne changera jamais.
Pour l'instant, dans son hôpital, on ne fait pas tri de patients en réanimation. On peut encore tous les accueillir, mais s'il fallait faire du tri, on ne le ferait pas, dit-il, en fonction du statut vaccinal. On le ferait comme d'habitude, en fonction du bénéfice que pourrait tirer le patient d'une réanimation.
À Paris, désormais, plus d'une contamination sur 3 est liée au variant Omicron, vient de dire à l'instant le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Plus de 3000 patients sont en soins critiques. Les autres chiffres clés de ce jour concernent la vaccination. On a passé ce matin, selon la Direction Générale de la Santé, le cap des 20 millions de personnes qui ont reçu leur dose de rappel. 875 000 pour la seule journée de vendredi, c'est un record. 400 centres de vaccination ouverts en un mois, on est à près de 1500. L'objectif désormais est d'en ouvrir le plus possible, 7 jours sur 7, avec des horaires élargis. toucher le public le plus large possible, c'est aussi aller à la rencontre des sans-abri. Une opération de vaccination à leur intention était organisée hier soir au Mans, place du Jet d'eau. Agence régionale de santé, pompiers, Resto du Cœur, Ville du Mans, chacun a participé à sa manière. La préfète est venue faire un tour. Reportage, Julien Jean, France Bleu Maine.
Le petit centre de vaccination éphémère, composé d'un barnum et de 5 chalets, est installé au pied de la cathédrale, là où stationne à la nuit tombée le bus des Restos du Cœur.
Parce que c'est compliqué pour les personnes de la rue de se déplacer.
Gaëlle Pourcel, infirmière.
Ils ont leurs affaires, parfois ils ont leurs chiens. Ils n'ont pas forcément la possibilité de mettre tous leurs effets en sécurité pour pouvoir se rendre en centre de vaccination. Là, nous, on est un peu plus ouverts. En plus, on est à des endroits qu'ils connaissent par cœur puisqu'ils viennent chercher leur repas. Ils arrivent, ils nous voient là, ils disent « Ah bah oui, tiens ».
Parmi les bénéficiaires, il y a Patrice.
Votre âge, s'il vous plaît.
Mon âge ?
Oui.
46 ans à l'envers.
64.
Patrice, durement touché par le Covid au printemps.
Je me suis tapé 20 jours de vacances forcées, une semaine en réa et une semaine à l'unité 52.
Il a donc choisi de se faire vacciner, mais il est inquiet.
Vous êtes sûr que les vaccins, ils sont fiables ?
Ah oui, les vaccins sont fiables.
Il a donc fallu rassurer, expliquer avant l'injection.
Vous piquez en douceur, hein, j'espère.
Oui, oui. Ça va ?
Ouais.
Bah, c'est parfait. Nickel.
Moi, j'ai dit que ce qui se passe ce soir, c'est déjà beaucoup. Parce que les gens se font vacciner, c'est gratuit, avec des pompiers, des médecins, des infirmières. C'est grandiose.
Et comme Patrice, une soixantaine de sans-abri ont ainsi pu être vaccinés.
Le gouvernement n'exclut pas d'aller au-delà des mesures de restriction déjà en vigueur en cas de reprise très forte de l'épidémie sous l'effet du variant Omicron. On le disait, une contamination sur 3 désormais à Paris. Cette annonce vient après celle d'un projet de loi sur un pass vaccinal en janvier, des discussions sur un pass sanitaire au travail. Tout s'accélère et tout cela dessine, Maxence Lambrec, une stratégie que l'on peut résumer en deux mots, vaccination et pression.
Oui, pression pour la vaccination, on vient de l'apprendre, 2 millions de créneaux supplémentaires vont être ouverts avant la fin de l'année, avant le 31 décembre. Et le gouvernement veut gagner 15 jours sur le calendrier initial pour transformer le pass sanitaire en un pass vaccinal. Il y aura donc un conseil des ministres entre Noël et Nouvel An lundi prochain pour présenter ce texte. Les parlementaires vont devoir rentrer de vacances plus tôt. Débat la semaine prochaine. Assemblée, Sénat, navette express comme on l'a connu au début de la crise. Cette mesure devait entrer en vigueur fin janvier, début février. Et non, ce sera au plus tard mi-janvier, ce qui accentue encore la pression sur les non-vaccinés. Dans 4 semaines terminées, plus de cafés ou de restaurants sans vaccin. Et ça a l'air de fonctionner, estime l'exécutif. Le nombre de rendez-vous pour première injection a doublé par rapport à la semaine dernière. Reste la question du pass sanitaire en entreprise. Le gouvernement hésite, compliqué à organiser, pas facile à appuyer juridiquement. Cet après-midi, face au Premier ministre, les parlementaires vont partager leur scepticisme sur ce point. Certains vont aussi pousser pour de nouvelles restrictions. Nous entrons dans une période de forte turbulence, reconnaît le porte-parole du gouvernement. L'hypothèse d'un couvre-feu le 31 décembre au soir est sur la table. La prolongation des vacances scolaires ne serait qu'un ultime recours, précise Gabriel Attal. Pour l'instant, l'Élysée n'a pas encore convoqué de conseil de défense sanitaire.
Sur le pass sanitaire au travail, au-delà des parlementaires, discussion avec des élus locaux, avec les syndicats de la fonction publique. Pour l'instant, les échos, tant côté syndicat que patronat, ne sont pas enthousiastes. Les interlocuteurs pointent les nombreuses difficultés d'application. Exemple à Aubusson, dans les Fonderies Fraisse, avis plutôt mitigé entre patrons et salariés. Reportage Justine Morel, France Bleu Creuse.
Depuis près de 10 ans, Loïc enfile tous les matins son tablier de fondeur. Pour lui, montrer un pass sanitaire avant d'aller travailler, ce ne serait pas un problème.
On voit très bien ce qui se passe dans les autres pays. Hein, donc il faut se faire vacciner, il n'y a pas le choix. Et, plus vite tout le monde l'aura fait, peut-être plus vite on s'en sortira et on pourra prendre un train de vie normal. On va dire.
Même son de cloche pour Jean-Louis, il travaille dans le même atelier.
Moi ça me dérange pas, moi je suis vacciné. Maintenant il y en a qui veulent pas, mais est-ce que c'est la bonne solution, je ne sais pas. Mais...
De son côté, Pierre-Emmanuel Fraisse, le directeur de l'entreprise, se montre plus inquiet. Même si la majorité de ses employés est vaccinée, le pass obligatoire pourrait bien perturber le fonctionnement des fonderies.
Ça va être très compliqué effectivement, c'est difficile de remplir un moule en télétravail. Seules les fonctions support, je pense au bureau d'études et à la compta, pourraient travailler en télétravail. Tout ce qui est atelier de production, c'est strictement impossible. Donc effectivement, si nos salariés ne sont pas vaccinés et que le pass vaccinal vient être imposé par les entreprises, ça risque d'affecter grandement notre activité.
D'autant que l'entreprise est sur une bonne dynamique après avoir souffert lors du premier confinement. les fonderies étaient restées fermées pendant 45 jours.
Un peu partout à l'étranger, les mesures anti-Covid se font plus massives et strictes à mesure que le variant Omicron progresse. Discours de Joe Biden attendu dans les heures à venir. De nouvelles restrictions attendues en Allemagne. À l'instant, ce que Frédéric Mettezo, notre correspondant, nous annonçait hier, Israël interdit les voyages avec les États-Unis. Au Royaume-Uni, plus de 90 000 nouveaux cas de Covid par jour à cause d'Omicron. Les hôpitaux tiennent pour l'instant car le nombre de formes graves est limité grâce à la vaccination. Pas de nouvelles restrictions en vue, mais tout de même, pour la reine, une fin d'année qui ne ressemblera pas à ce qu'elle est d'habitude. À Londres, pour France Inter, Richard Place.
Elisabeth II prononcera bien son discours de Noël, une intervention télévisée enregistrée qui sera diffusée samedi, le 25 décembre, comme toujours. Mais pour la reine, ses fêtes de fin d'année ne seront absolument pas comme les autres. D'abord, elle n'ira pas à Sandringham, sa résidence située dans le Norfolk, à l'est de l'Angleterre. Elle reste au château de Windsor, à côté de Londres. Elle y séjourne seule. Sa famille proche pourra lui rendre visite, mais en respectant des mesures sanitaires strictes. À 95 ans, la monarque doit évidemment éviter le virus à tout prix. Elle a d'ailleurs annulé son habituel déjeuner de Noël, qui aurait dû se tenir ces jours-ci en présence de toute sa famille, jusqu'aux cousins éloignés. Sa santé pose question ces dernières semaines. Brièvement hospitalisée en octobre, elle n'est depuis apparue publiquement qu'en de très rares occasions, laissant la place à son fils, le prince Charles, et son petit-fils, le prince William. Londres, Richard Place, France Inter.
Et puis on vous parle régulièrement des pénuries et difficultés d'approvisionnement en cette période de pandémie. Elles vont avoir une conséquence très concrète pour les clients de McDo au Japon. La firme américaine va cesser pendant une semaine au moins de proposer des frites taille moyenne ou grande. Elle manque de pommes de terre. Sur cette épidémie toujours là en cette fin d'année et la double lame Covid Omicron et Covid Delta, l'invité de France Inter à 13h30 sera Karine Lacombe, la chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. J'attends toutes vos questions au 01 45 24 7000 ou via l'appli France Inter, rubrique Réagir. Que se passe-t-il à Sciences Po Grenoble? L'établissement vient de suspendre l'un de ses enseignants d'allemand, Klaus Kinzler. Il est accusé d'avoir tenu dans la presse des propos diffamatoires sur l'Institut d'études politiques. Lui décrit l'IEP comme un lieu où la liberté de parole n'est plus protégée, un institut de rééducation politique où un noyau dur d'enseignants adeptes des théories woke endoctrine les étudiants avec la complicité d'une direction passive, direction qui assure de son côté que la liberté d'expression et d'enseignement sont garanties et estime que la façon dont l'enseignant parle de l'islam est problématique. Bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour.
Cette suspension pour 4 mois, c'est le dernier épisode d'une histoire qui dure depuis un an.
Oui, depuis qu'un groupe de travail d'enseignants a préparé la semaine de l'égalité et contre les discriminations. Thème choisi, racisme, islamophobie et antisémitisme. Klaus Kinzler, qui enseigne depuis 25 ans à l'IEP, ne veut pas que le terme islamophobie soit juxtaposé aux deux autres. Il échange des mails pour exprimer sa façon de penser. Une enseignante l'accuse ensuite de harcèlement moral. Elle-même s'oppose à la ministre de l'enseignement supérieur qui veut enquêter sur l'islamo-gauchisme à l'université. Autre polémique l'année dernière. Klaus Kinzler est exclu du groupe. Son collègue Vincent T, qui donne un cours sur l'islam et les musulmans de France, lui, fait l'objet d'un appel à témoignage des étudiants sur des propos dits problématique, l'union syndicale de l'IEP chercherait à le faire exclure. Klaus Kinzler prend alors la parole pour dénoncer une ambiance délétère et un impossible débat sur l'islam. Début mars, les noms des deux enseignants apparaissent sur des collages à l'entrée de l'IEP pour les traiter de fascistes et leur demander de démissionner. Collage agrémenté d'une caricature retirée dans la journée, mais l'UNEF, syndicat étudiant, relaie des photos sur les réseaux sociaux entre-temps. Voilà qui remettent une pièce dans la machine au niveau national. Le ministre de l'Intérieur se déplace alors à Grenoble et indique que les deux enseignants sont placés sous protection judiciaire. Depuis, le conseil de discipline de l'université a jugé une vingtaine d'étudiants, décidé de l'exclusion temporaire avec sursis d'une étudiante. Sanction trop faible au goût de Klaus Kinzler, qu'il fait savoir au micro de nos confrères de France Bleu Isère, ce qui lui vaut ses soucis du jour.
Et le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, suspend les financements à l'IEP de Grenoble. Il dénonce dans l'Institut une longue dérive idéologique et communautariste. C'était en août dernier au Niger, l'assassinat de 6 humanitaires français, acte dont le groupe État islamique au Sahel avait revendiqué la responsabilité. La France annonce aujourd'hui avoir tué un des auteurs qui avait aussi filmé l'assassinat et fait circuler la vidéo. tué au Niger par un tir de drone alors qu'il circulait seul à moto. Celui qui avait commandité l'attaque avait déjà été tué à la mi-août. 11 personnes soupçonnées d'y avoir participé ont été arrêtées au fil des mois. Venons-en à la campagne électorale en France. Éric Zemmour est aujourd'hui dans le Dauphiné. Au menu, selon son équipe, visite d'une exploitation agricole, déjeuner avec des maires de communes rurales. Je précise selon son équipe car la particularité de cette visite électorale, c'est qu'elle n'est pas ouverte à la presse. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Le candidat veut faire une campagne avec un minimum de presse.
Oui, la décision a été prise après la séquence désastreuse fin novembre à Marseille. Éric Zemmour, rappelez-vous, pour la première fois tente d'aller à la rencontre des habitants, mais c'est un échec. À chaque pas, des militants antifa lui hurlent de dégager et certains journalistes sont accusés d'avoir diffusé le programme. L'équipe prévient alors les médias. Désormais, pour des raisons sécuritaires, les déroulés des déplacements seront communiqués au dernier moment, voire pas du tout, comme aujourd'hui dans le Dauphiné. Et les rendez-vous en petit comité seront privilégiés. Choix sécuritaire, mais pas que. Les bonjour madame sur les marchés, c'est pas son truc, admet son entourage. Éric Zemmour lui-même l'avouait à Marseille.
C'est du cirque médiatique, je connais, vous savez, j'ai été journaliste politique, j'ai suivi Chirac, j'ai suivi Séguin, j'ai suivi Mitterrand, je sais exactement que c'est de la mise en scène. Tout le monde sait que ça en déambule et qu'on voit pas vraiment les gens.
Sans déambulation, sans grande ville et parfois sans presse, c'est donc une campagne carte postale qui se dessine, des photos idylliques diffusées sur ses propres réseaux sociaux, avec deux écueils majeurs, le contraste saisissant avec ses concurrents, Marine Le Pen notamment, encore acclamée récemment à Mayotte, et l'impact sur les électeurs quand une enquête Cevipof publié hier démontre que ce sont d'abord avec les JT et les chaînes d'info que les Français s'informent sur l'actualité politique, loin, très loin, devant Facebook, YouTube ou Twitter.
Il y a quelques jours, Éric Zemmour était en Arménie. La petite terre chrétienne entre mer Noire et mer Caspienne en Asie est en vogue. Depuis hier, c'est Valérie Pécresse qui y est. C'est son premier déplacement à l'étranger depuis qu'elle est candidate. C'est un pays d'où elle pourra s'adresser aux électeurs arméniens de France et aux chrétiens. Incontournable pour une candidate de droite, Anne Souhaitement.
Ces toutes premières heures en Arménie auront été consacrées aux chrétiens d'Orient. Au cœur de mon combat, a insisté Valérie Pécresse lors d'un entretien avec le Catholicos, chef de l'église apostolique arménienne. 30 minutes de rencontre à Etchemeyadzin, lieu saint à quelques kilomètres de la capitale Erevan, pendant lesquelles il a notamment été question du sort des chrétiens dans le Haut-Karabakh, région arménienne perdue l'an dernier dans une guerre éclair au profit du voisin azerbaïdjanais.
Le Catholicos est évidemment très, très préoccupé par l'avenir des églises qui se situaient sur le territoire du Haut-Karabakh. 150 églises qui ont dû fermer. Il ne reste plus qu'un seul monastère ouvert. Il y a là un enjeu patrimonial pour l'humanité, puis il y a un enjeu aussi de l'âme d'un peuple qui peut être abîmé, nié dans ces territoires du Haut-Karabakh.
Valérie Pécresse n'en dira pas beaucoup plus. Elle rencontre cet après-midi plusieurs responsables arméniens, dont le président et le ministre des Affaires étrangères. Mais à la veille de Noël, et 10 jours après le déplacement d'Éric Zemmour, qui n'avait pas hésité à parler de guerre civilisationnelle, le symbole est là. Valérie Pécresse prend des accents chiraciens pour devenir la candidate de la défense d'une minorité, les chrétiens d'Orient, dont elle visitera un monastère demain, sans prononcer, pour l'instant, le mot islam. Anne Souhaitement, Erevan, France Inter.
Valérie Pécresse s'adresse notamment aux catholiques, sur le thème « Dieu et la science », un Emmanuel Macron plus « en même temps que jamais » donne un texte à l'Express. Cela commence par une dénonciation de la remise en cause de la science dans le contexte de l'épidémie. Jamais l'humanité n'a eu autant besoin de la science. Le président de la République dénonce l'intégrisme religieux qui privilégie la foi sur la raison et devient de plus en plus prégnant. Et en même temps, la raison et la religion, sous-entendu quand elle n'est pas portée par des intégristes, peuvent vivre côte à côte. Aspiration à la raison et besoin de transcendance cohabitent en chacun de nous, estime Emmanuel Macron. Libre de critiquer, libre de croire, écrit-il. L'Arménie, où est Valérie Pécresse? C'est une ancienne république soviétique. À propos de l'Union soviétique, quittons un instant l'actualité pour revivre une page d'histoire. Il y a exactement 30 ans, 21 décembre 1991, c'était la fin de l'URSS. 11 des 15 républiques soviétiques signaient un accord pour créer la CEI, Communauté des États indépendants. Au Kremlin, Mikhaïl Gorbatchev préparait son discours de démission. Et ce moment, le porte-parole de Gorbatchev, Andrei Gratchev, l'a vécu très directement. Il raconte à Eric Biegala.
Évidemment, dès le matin, je suis au Kremlin
Je suis pas loin de ce bureau et évidemment, avec l'approche du moment de sa déclaration de démission, je me rapproche de son bureau, que j'entre au début de l'après-midi, au moment où il est en train de finaliser le texte de son discours.
30 ans plus tard, aujourd'hui, on a parfois l'impression que l'ambition d'un Vladimir Poutine, c'est bien de reconstruire une entité géopolitique qui serait équivalente à ce qu'était l'URSS.
La Russie, en sa forme soviétique, ou bien en sa forme de l'Empire russe, reste une réalité géopolitique, géographique, stratégique, tout ce que vous voulez. Et les manifestations d'un certain revanchisme géopolitique qu'on peut découvrir dans l'action du gouvernement ou du président actuel de la Russie reflètent cette recherche de la reconstitution de ce pays en forme d'un pôle d'influence dans ce monde multipolaire. Surtout que Poutine ne cesse de le qualifier, ce monde, comme un monde post-occidental.
Revanchisme politique, dit Andrei Gratchev. Deux exemples en cette fin d'année. Ce matin, à propos de Vladimir Poutine, il est important de développer davantage l'armée russe. Et puis Gazprom, la compagnie russe, vient d'interrompre pour quelques jours ses livraisons de gaz à l'Allemagne. Façon de mettre la pression sur le nouveau chancelier Olaf Scholz. À ce sujet, vous pouvez réécouter l'analyse d'Anthony Bélanger ce matin dans Géopolitique. C'est sur franceinter.fr. Le point géopolitique. Le poids géopolitique d'une entreprise et du pays qu'elle représente. C'est aussi dans une moindre mesure l'histoire de Bolloré. Une de ses activités historiques, ce sont des concessions portuaires, des entrepôts, des infrastructures de transport dans une vingtaine de pays d'Afrique. Eh bien, Bolloré Africa Logistics va-t-il être cédé ? Une offre, en tout cas, est sur la table de près de 6 milliards d'euros. Elle n'émane pas d'un groupe français, mais de l'Italo-Suisse MSC. Pour mesurer les retombées d'une telle opération, si elle se confirmait, direction la Côte d'Ivoire. Reportage d'Amandine Réau.
Dans le milieu de la logistique, c'était un secret de polichinelle. À la veille de ses 70 ans, l'âge fixé pour son départ, Vincent Bolloré prépare la suite. Denis Cordel, ancien employé de Bolloré, aujourd'hui spécialiste portuaire à Abidjan.
La vente de Bolloré n'est pas improvisée, c'est quelque chose qui est programmé de longue date. Entre autres parce que je pense que les enfants de Vincent Bolloré sont plus passionnés par les médias, le groupe Vivendi, que par la logistique. Et que les affaires qu'il y a pu y avoir concernant Bolloré en Afrique ne sont pas, à mon avis, la raison principale de la vente.
La filiale Bolloré Africa Logistics emploie plus de 20 000 salariés. C'est le leader du transport et de la logistique en Afrique, avec un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros. Elle exploite des terminaux portuaires, des entrepôts et des concessions ferroviaires dans plus de 20 pays en Afrique. Cette vente est en tournant pour le groupe Bolloré, qui a bâti les bases de son empire dans la logistique et sur le continent africain. Le groupe conservera toutefois une présence en Afrique dans la communication et l'audiovisuel, notamment à travers Canal+, premier opérateur de télévision payante en Afrique francophone. Abidjan, Amandine Réau, France Inter.
Le Liban s'enfonce un peu plus, si c'est possible, dans la crise économique. Il faudrait 12 à 15 milliards de dollars pour relancer l'économie, dit la Banque centrale libanaise. La crise est aussi un repli communautaire. L'armée, soutenue par la communauté internationale, tente de maintenir une stabilité très fragile. Mais les militaires eux-mêmes sont frappés de plein fouet par la crise. L'institution semble se fissurer de partout. Budget divisé par 6, absentéisme qui explose et vague de défection. Notre correspondant, l'un de nos correspondants, Noé Pignède, a pu recueillir le témoignage édifiant d'un soldat.
Les militaires libanais ne sont pas autorisés à parler aux journalistes.
Nous n'avons pas le droit d'ouvrir la bouche, même chez le dentiste.
Mais ce soldat des forces spéciales que nous appellerons Mazen a choisi de se livrer malgré tout et de raconter le quotidien de ses frères d'armes que la crise économique frappe de plein fouet.
Un soldat comme moi, il y a 3 ans, gagnait l'équivalent de 1000 euros par mois. Aujourd'hui, notre salaire en vaut à peine 70. Alors j'ai trouvé un travail à côté, je revends des voitures d'occasion. Certains camarades ont ouvert une épicerie, d'autres sont devenus chauffeurs de taxi. De survivre.
Des petits boulots pour essayer de compenser leur maigre salaire. Mazen a une femme et 2 enfants à nourrir.
Moi, je suis devenu militaire parce que j'aimais ma patrie. Mais nous sommes dans une situation intenable. Je me sens humilié. La meilleure solution maintenant, c'est de quitter ce pays.
Mazen a bien conscience que les défections affaibliront durablement une institution déjà à bout de souffle. Dans un pays rongé par le repli communautaire, l'armée libanaise multiconfessionnelle est souvent présentée comme l'un des derniers remparts contre le chaos.
Si l'armée lâche, il y aura une guerre civile. Les milices des partis politiques chasseront les militaires et prendront le contrôle. Chacun défendra son clan.
Sur les 60 000 soldats du pays du Cèdre, 3 000 auraient déjà fait défection. L'armée libanaise vit aujourd'hui sous perfusion de la communauté internationale, dernier filet de sécurité pour maintenir la paix dans un pays en plein effondrement. Noé Pignat, Beyrouth, France Inter.
12 ans après la date de mise en service initialement prévue, le réacteur nucléaire EPR de Finlande a démarré cette nuit. Mise en service réelle en janvier, il sera alors le plus puissant réacteur en Europe et pourra à terme fournir 15% de l'électricité finlandaise. La prise d'otage aura duré près de 17 heures. Elle s'est terminée ce matin par l'arrestation du forcené et la libération de la dernière otage. Elles étaient deux depuis hier 15h30. Une mère et sa fille, retenues sous la menace d'un couteau dans une quincaillerie du 12e arrondissement de Paris, près de la place de la Bastille. Personne n'est blessé. La piste terroriste a été rapidement écartée dès hier. L'homme souffre de troubles psychiatriques, Mathilde Vinceneuve.
Oui, un homme manifestement déséquilibré selon la procureure de Paris, Laure Becquiot. Dans le quartier, il était déjà connu pour être instable, précise une source policière. Il dit avoir 56 ans, mais il ne s'agit pas d'un ancien magistrat tunisien, indique le parquet. L'information avait circulé dans un premier temps. L'homme doit maintenant être examiné pour savoir si son état est compatible avec la garde à vue. Pendant la prise d'otage, il a d'abord voulu parler au ministre de la Justice, puis à une avocate qui a fait la une récemment, l'avocate d'Omar Radad, l'ancien jardinier condamné en 94 pour le meurtre de Ghislaine Marchal. L'affaire a été relancée il y a quelques jours. Maître Sylvie Noakovic a donc téléphoné au preneur d'otage.
Il était extrêmement paniqué, stressé, et il m'indiquait qu'il a été victime d'une erreur médicale et qu'il souhaitait absolument que je le défende. Donc voilà, on était face vraiment à quelqu'un de très stressé, on avait un discours incohérent. Mais j'avais du mal à penser qu'il passerait à l'acte quand même.
La fin de cette prise d'otage est un soulagement, écrit sur Twitter la maire de Paris, Anne Hidalgo. Comme elle, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, remercie notamment la BRI, la brigade de recherche et d'intervention qui a mené ces longues négociations.
À Marseille, les déchets vont-ils enfin disparaître des rues? La métropole et le syndicat Force Ouvrière ont trouvé un accord après un mois de grève. Terminons avec un parfum plus agréable avant la météo. L'hiver commence aujourd'hui et pourtant la récolte d'un fruit qui évoque l'été vient de commencer. La cueillette des citrons de Menton, c'est une indication géographique protégée. Rachel Sadodine, vous êtes allée voir comment ça se passe à la maison du citron, domaine de la famille Ganac.
Le domaine possède 6 parcelles un peu partout dans Menton. Ici, nous sommes au fond du jardin d'un particulier. En face, la montagne, grand ciel bleu. Dans le verger, Victorien porte juste un pull, pourtant au sol, quelques gouttes de rosée. La cueillette, ça se fait le matin pour garder les citrons au frais.
Tout est fait à la main, donc on porte toutes les caisses manuellement. C'est ce qui prend pas mal de temps aussi de se balader entre les arbres.
En une matinée de travail, les 3 cueilleurs mettent en caisse une demi-tonne de citrons avec 2 outils seulement. Un petit sécateur dans une poche, un autre au bout d'un bras télescopique. Lucas inspecte les arbres de bas en haut.
Il faut bien le choisir, la maturité, la taille, le calibre. Là, par exemple, je vais regarder les branches plutôt en haut. Il faut avoir le coup de main, on va dire, pour aller rapidement et pas abîmer le fruit en le déposant délicatement.
Vous, vous le reconnaissez comment au moment de la cueillette ?
Pas tellement par la forme, mais on va dire plutôt par la couleur. Moi, j'aime bien le... Les citrons un peu clairs, ce citron-là, j'aimerais bien le déguster comme ça, quoi, le presser juste avec de l'eau.
La particularité du citron de Menton, c'est qu'il se presse, bien sûr, mais qu'on peut aussi le croquer. L'écorce est douce, la pulpe légèrement acide.
L'hiver dernier, quelques 40 tonnes de citrons ont ainsi été récoltées. Grand bleu pour la récolte à Menton, c'est la tendance dans une partie de la France. On voit cela dans un instant.
France Inter présente le podcast original Parcours critique, Michel Houellebecq.
En 9 romans, d'extension du domaine de la lutte en 1994 à sérotonine en 2019, le statut de Michel Houellebecq a changé.
Sismographe qui sent les secousses.
30 ans de littérature, 30 ans de critique au masque et la plume.
Mais je trouve que c'est une observation.
30 ans d'évolution de la société française.
Parcours critique, Michel Houellebecq, un podcast hors série du masque avec Nelly Caprielian.
À télécharger avant le nouveau roman sur l'application Radio France et franceinter.fr.
Tu sais comment un vrai connaisseur comme moi choisit un foie gras ?
Bah tu regardes s'il est du Sud-Ouest.
Ah, tu es connaisseur toi aussi ?
IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest, Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy. Campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union Européenne et de la région Occitanie.
Le temps de ce jour.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué. Libre par nature.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est ensoleillé et plus froid au nord.
Oui, alors sur une grande partie du pays, le soleil s'impose. Il assure vraiment une belle journée. Il faut tout de même composer avec un petit voile nuageux sans conséquence sur la façade ouest. Du Val-de-Saône au Lyonnais, là les nuages bas sont tenaces. Quelques-uns peuvent résister également vers le centre-Val-de-Loire ou vers la vallée de la Garonne. Et puis en Méditerranée, les nuages ont l'avantage avec un petit risque d'averse pour la Côte d'Azur, pour la Corse. Il fait froid cet après-midi. C'est plus doux tout de même entre le sud de l'Aquitaine et la Méditerranée. Comptez 0 degré à Dijon, 1 petit degré à Lyon, 2 à Valenciennes, 4 à Paris et à Tours, 7 degrés à Brest, à Bordeaux, 11 degrés à Toulouse et à Martigues, 13 à Bastia, 16 à Tarbes et 17 à Bayonne. Il va faire encore bien froid demain matin avec de fortes gelées. Les températures commenceront à remonter jeudi. On aura un Noël en douceur.
Merci Elodie Calac, Météo France. Il est 13h30 avec notre invité. Nous parlons de l'épidémie de Covid.
France Inter, le 13-14. Bruno Duc.
Alors que le gouvernement n'exclut pas de nouvelles mesures de restriction et accélère le calendrier, projet de loi sur le pass vaccinal en Conseil des ministres dès la semaine prochaine, pas de trêve des confiseurs. Autre chiffre clé, plus de 3000 patients en service de soins critiques à l'hôpital. C'est une première depuis le mois de mai. Notre invité jusqu'à 13h45 est la chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Bonjour Karine Lacombe.
Oui, bonjour.
D'abord état des lieux chez vous à l'hôpital Saint-Antoine, où en est-on ?
Mais écoutez, on a augmenté le nombre de lits depuis le mois de décembre. On ouvre à peu près une dizaine de lits de plus par semaine.
Oui.
Donc on est actuellement à une quarantaine de lits ouverts hors réanimation.
Oui.
Puisqu'en réanimation également, on est en train de déprogrammer de la chirurgie non urgente de façon à pouvoir ouvrir des lits dans des espaces qui habituellement faisaient du post-opératoire.
Et ces ouvertures de lits, c'est pour les jours qui arrivent là ?
Alors en fait, c'est pour dès maintenant, puisque oui. On voit que le flux aux urgences continue d'être relativement important.
Oui.
Donc on essaie de renvoyer un certain nombre de patients à la maison quand ils n'ont pas de signes graves, mais pour un certain nombre d'entre eux, en particulier des personnes qui ont des pathologies associées, qui sont un peu âgées, un peu fragiles, on les garde à l'hôpital.
Pour l'instant, ça tient, pas besoin de transfert de patients ou de choses de cette nature-là, comme on a pu voir désormais à la Timone à Marseille.
Oui, tout à fait. Là, pour l'instant, en Île-de-France, on ne transfère pas encore de patients ailleurs de l'Île-de-France, mais on pense que dans les semaines à venir, il va falloir qu'à l'intérieur de l'Île-de-France, on transfère d'un hôpital à un autre, parce qu'on a toujours une partie de l'Île-de-France qui est plus touchée qu'une autre. Ça a dépendu des vagues. Là, pour l'instant, c'est assez homogène, mais on va voir un peu ce qui se passe dans les semaines à venir.
Et vous, Saint-Antoine, vous feriez partie des hôpitaux qui pourraient accueillir, quitte à déprogrammer d'autres opérations, ou des hôpitaux qui auraient besoin de coups de main de collègues ?
Alors en fait, très souvent, on a accueilli plutôt qu'envoyé vers l'extérieur des patients qui devaient être hospitalisés. Donc on va voir comment ça se passe dans les semaines à venir. A priori, on est plutôt un hôpital qui accueillons les personnes de l'extérieur. Personnes de l'extérieur du centre de Paris, par exemple. On a beaucoup accueilli du 94 ou du 93.
Oui, les départements limitrophes. Quel est, Karine Exactement. Lacombe, le profil des patients à la fois dans votre service à vous et en réanimation, en soins critiques ?
Alors en réanimation, on a principalement des personnes non vaccinées, donc on a quand même le sentiment que quand on n'est pas vacciné et qu'on attrape le Covid, on va faire une forme plus grave. En hospitalisation hors réanimation, on a un peu des deux, sauf que les personnes vaccinées sont en général des personnes qui n'ont pas eu leur troisième dose ou qui sont extrêmement fragiles, personnes âgées, qui sont immunodéprimées ou qui sont en surpoids. Et puis bien sûr, on a une bonne partie de patients non vaccinés qui malheureusement sont ceux qui sont le plus touchés proportionnellement en France.
Est-ce que vous partagez le sentiment qu'on entend de plus en plus nettement de médecins hospitaliers d'un ras-le-bol face à ces arrivées de patients non vaccinés qui ont été prévenus, Dieu sait si on en parle beaucoup. Est-ce que vous partagez ce ras-le-bol, cet agacement, cette fatigue, je dirais ?
C'est vrai que ce n'est pas du tout le même profil que les patients qu'on a pu recevoir auparavant. Les patients qu'on recevait auparavant, alors avant la vaccination ou même au tout début de la vaccination, étaient des patients qui étaient plutôt reconnaissants du système de soins et de ce qu'on pouvait leur offrir en termes de traitement. Maintenant, les patients que l'on reçoit qui ne sont pas vaccinés sont plutôt des personnes qui sont un peu anti-système et qui nous en veulent quelque part d'être à l'hôpital et qui refusent assez facilement toute prise en charge médicale. On a par exemple pour certains d'entre eux la possibilité de leur donner des anticorps monoclonaux qui peuvent marcher et en général, ils refusent. Donc on a déjà eu des patients qui ont refusé et qui du coup sont passés en réanimation, se sont aggravés, sont passés en réanimation. Et donc on a, c'est pas du tout la même relation médecin-malade que ce qu'on a pu avoir avant. On a une relation qui ne s'établit pas sur la confiance et qui rend notre travail au quotidien beaucoup plus compliqué.
Est-ce que vous voyez arriver des patients Omicron, si j'ose dire? Gabriel Attal disait il y a quelques minutes que c'est désormais une contamination sur 3 à Paris. Est-ce que vous voyez arriver à Saint-Antoine des patients Omicron?
Oui, oui, bien sûr. Ça fait à peu près une grosse semaine qu'on commence à voir arriver de l'Omicron. Nous, on a même le sentiment que c'est plus qu'un patient sur 3. On pense que c'est un peu plus de 50%, enfin au moins 50%. Et vous savez qu'on a tout le temps un décalage entre le moment où les patients arrivent, qu'on les prélève, où on a le résultat du criblage et puis évidemment du séquençage qui est encore plus long. Donc, on pense qu'on est au-delà de 30%. On est bien plutôt vers les 50%, voire plus.
Est-ce qu'il
Donc, probablement, avant la fin de l'année, il sera largement majoritaire.
Est-ce qu'il y en a en soins critiques? Pour l'instant, les premières données qu'on peut avoir semblent indiquer, mais avec toute la prudence du monde, qu'il y a moins de formes graves. Est-ce que vous en avez des patients Omicron en soins critiques?
Alors là, pour l'instant, on n'en a pas.
Oui.
Et effectivement, c'est l'impression qu'on a que bien qu'il soit beaucoup, beaucoup plus contagieux, n'entraîne pas plus de formes graves, ce qui serait quand même une très bonne nouvelle, parce qu'on est quand même encore au sommet de la 5e vague. On sait que la 6e vague, en tout cas de contamination, va être de l'Omicron. Et donc, cette 6e vague qui sera plus importante en termes de contamination, que le virus est plus infectieux, il est plus transmissible, on n'a pas du tout envie qu'il soit en plus grave en termes de signes cliniques. Pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on voit. Donc, on est plutôt optimiste, entre guillemets. Vraiment, toute précaution gardée.
Avec toutes les réserves. Allez, nous allons au standard. Question de Marianne pour vous, Karine Lacombe. Bonjour, Marianne.
Bonjour.
Vous nous appelez de la Nièvre, je crois.
Exactement, oui. La Nièvre.
Nous vous écoutons.
Je voulais poser une question au médecin, à Madame Lacombe, pour savoir, pour les vaccins. Personne n'en parle. Est-ce que les vaccins sont vraiment efficaces, en fait? Est-ce qu'ils sont efficaces que de 3 mois, 4 mois? C'est moi, quand j'ai fait ma 3e dose en septembre, le médecin m'a dit, dans 6 mois. Hein. Donc, je lui ai dit, c'est une plaisanterie. Il m'a dit, pas du tout.
Alors,
c'est cette question que j'aurais lui posé. Parce que moi, j'ai mes 3 doses. J'ai une confiance totale en la science. Et je me pose cette question. Je me dis, est-ce que les vaccins sont valables? Parce qu'on peut contaminer et on peut être contaminé.
Karine Lacombe, réponse à la question de Marianne.
Alors, je ne sais pas quelle 3e dose vous avez eue, madame. Si c'est une dose parce que vous avez une maladie particulière qui nécessite 3 doses pour renforcer vos défenses immunitaires, ou si vous avez eu la 3e dose 6 mois après la 2e.
Alors attendez, on va lui demander tout de suite. Marianne, c'était quoi? C'était une dose de rappel classique, si j'ose dire?
Ah oui, une rappel classique, j'ai rien, j'ai aucune comorbidité. Mon seul handicap, c'est mon âge.
Bon, voilà la précision apportée, Karine Lacombe.
D'accord, très bien, qui n'est pas un handicap, l'âge, bien sûr. Alors effectivement, ce qu'on a montré avec l'Omicron, c'est que une 3e dose qui augmente de façon extrêmement importante les défenses immunitaires permettent d'avoir une meilleure réponse face au Omicron que quand on n'a que 2 doses. C'est la raison pour laquelle on a accéléré ces dernières semaines l'accès à la 3e dose pour tout le monde, à cette dose de boost. Et vous êtes mieux protégé qu'avec 2 doses. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette 3e dose, en fait, a surtout un impact sur votre risque d'aller à l'hôpital et puis éventuellement de décéder. Vous attraperez peut-être le virus, parce que malheureusement, la protection contre le virus, contre le fait d'attraper le virus, n'est pas de 100%. En revanche, elle est très élevée pour vous éviter d'aller à l'hôpital, et c'est ce qui est quand même le plus important.
Marianne, est-ce que la réponse est claire? Parce que votre question était très détaillée et très posée, donc dites-moi.
Oui, moi, la question que je m'interroge, moi, j'ai eu mon rappel normal en septembre, et est-ce que c'est toujours efficace?
Mais alors,
tout à fait. 4 mois plus tard, c'est toujours efficace. Vous n'avez pas besoin de 4e dose à ce jour.
Voilà, le médecin qui lui a dit rendez-vous dans 6 mois, est-ce que ça fait partie des choses qui sont en réflexion? C'est-à-dire qu'il faudra un coup de booster très régulièrement? Ou est-ce qu'on en est sur ce point?
Là, pour l'instant, on ne sait pas. Vraiment, on ne sait pas. On a évalué l'efficacité de la 3e dose, donc du booster, et qui, même contre le Omicron, s'avère efficace. Mais est-ce qu'il va falloir faire une 4e dose, une 5e dose, qui sont plutôt des doses de rappel ou de boost? Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour le savoir.
Anaïs, au standard. Bonjour, Anaïs.
Oui, bonjour, je vais essayer de faire bref. Merci de prendre ma question. Je voulais savoir, en fait, on entend beaucoup parler des personnes non vaccinées aujourd'hui en réa, avec donc des difficultés d'accepter en fait la situation qu'il y ait des gens non vaccinés en France, bien que ce ne soit pas encore obligatoire. Aujourd'hui, les non vaccinés, dont je ne fais pas partie, hein, mais j'en connais, qui du coup n'ont pas encore accepté l'idée de se faire vacciner. Visiblement, ça marche pas très bien la culpabilité, en fait, c'est pour ces gens-là, hein, pour se faire vacciner. Et donc, du coup, je voudrais savoir un petit peu la part, parce qu'on entend assez peu cette précision, la part en réa chez des personnes non vaccinées, la part des personnes qui ont moins de 65 ans et qui sont a priori, en tout cas, sans comorbidité et donc a priori moins à risque.
Voilà, la part des un peu plus jeunes, qui sont peut-être encore plus difficiles à convaincre quand on est un peu plus jeune, on a l'impression que tout va bien. Karine Lacombe, sur les tranches d'âge, vous avez des patients de tous les âges ?
Bah, écoutez, on parle bien de la réanimation, hein, donc oui. En soins critiques, la réanimation, actuellement, la moyenne d'âge, elle n'a pas tellement varié, hein, elle est en fonction des mois entre 60 et 65 ans. Alors, pas la moyenne, mais la médiane.
Oui.
C'est-à-dire que 50% des personnes qui sont en réanimation ont moins de ce seuil-là. Et donc, actuellement, pour le mois de décembre, je pense que c'est aux alentours de 63-64 ans. C'est-à-dire que 50% des personnes hospitalisées en réanimation, donc on a 3000 personnes actuellement à peu près en réanimation pour un Covid, eh bien, en gros, 1500 ont moins de 63 ans. Et donc, vous voyez que ce n'est pas négligeable. Hein, et ce sont des personnes qui, dans leur grosse majorité, ne sont pas vaccinées et qui, probablement, ne seraient jamais allées en réanimation s'ils avaient été vaccinés.
Serge, sur l'appli France Inter, je suis persuadé que pour la Saint-Sylvestre, un couvre-feu est indispensable si on veut échapper à la catastrophe, c'est-à-dire l'engorgement des hôpitaux. Qu'en pensez-vous ? Et j'ajouterais, voilà, le gouvernement qui laisse entendre qu'il pourrait y avoir, en tout cas, qui n'exclut pas de nouvelles mesures de restriction. Est-ce que ça vous semble nécessaire, nouvelles mesures de restriction, et notamment couvre-feu à la Saint-Sylvestre ?
Ça, c'est très difficile. Le fait d'appliquer des restrictions, c'est vraiment une décision qui est politique. Nous, les scientifiques, on donne les éléments pour que le pouvoir politique prenne les décisions. Actuellement, ce que l'on peut dire, c'est que on a une augmentation très brutale et très importante du nombre de contaminations qui est due à l'Omicron. On a une augmentation progressive des arrivées à l'hôpital. Est-ce que cette augmentation va être exponentielle ou est-ce qu'elle va être plutôt régulière, qui nous permet, nous, de nous adapter ? C'est encore un peu tôt. Et c'est vrai qu'on est obligé tout le temps de faire la part, en fait, la balance entre les libertés individuelles et l'envie d'avoir une vie qui tend vers la normalité et puis la pression sur le système de soins. Moi, je pense qu'on a encore quelques jours pour voir ce qu'il en est. Et surtout, ce qui est extrêmement important, c'est de continuer là pendant ces 10 jours à se vacciner pour ceux qui n'ont pas eu la troisième dose, c'est de se faire les tests, autotests, extrêmement important dès qu'on a le moindre risque que l'on ait cas contact, ne pas hésiter à s'isoler évidemment si on est infecté, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont infectées sans symptômes et qui ne s'isolent pas. En conséquent, donc il faut jouer le jeu pour protéger les autres. Et puis j'espère qu'on arrivera quand même à passer un 31 dans des conditions tout à fait raisonnables.
Autotest de précaution, y compris si on n'a pas de symptômes et qu'on va voir parents ou grands-parents un peu âgés ?
Ah oui, absolument. Je pense que c'est vraiment indispensable. On a la chance cette année, au contraire des autres années, d'avoir beaucoup d'armes à notre disposition pour, malgré le virus, continuer à vivre. La vaccination, les autotests en particulier. Donc oui, il faut absolument se dépister. Pour Noël, pour le 1er janvier, il faut se dépister le jour où on va être en contact avec des personnes, avec un grand nombre de personnes, en particulier des personnes fragiles.
Mireille au standard sur la situation des hôpitaux en cette fin d'année. Bonjour Mireille.
Bonjour, merci de prendre mon appel. Je suis fan de vos émissions, donc je suis heureuse d'être prise.
Merci.
Voilà, donc moi ma question c'est, un petit peu dans le désordre, pourquoi pas de débat contradictoire sur la vaccination, sur la prévention, sur les soins et les premiers symptômes ? Et pourquoi ne rappelle-t-on pas que la fermeture de lits en milieu hospitalier continue ? Par exemple, il y en avait, je crois, 5 700 lits en 2020 ont été fermés. Alors, tout est fait pour mettre en place une discrimination entre citoyens, enfin de mon point de vue, voilà, entre vaccinés et non vaccinés. Et ça me choque beaucoup de n'entendre qu'une seule voix, qu'un seul son de cloche.
Merci Mireille pour votre intervention. Commençons par les fermetures de lits. Karine Lacombe, est-ce que il y a eu des fermetures de lits à Saint-Antoine qui aujourd'hui font que c'est encore plus difficile de répondre à l'afflux de patients ?
Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre de lits qui sont fermés par manque de personnel, en particulier paramédical. Alors, les raisons de ce manque de personnel, elles sont multiples. Il y a des personnes qui sont parties à la retraite et les postes n'ont pas été pourvus. Non pas parce qu'on ne veut pas les pourvoir, mais parce qu'il n'y a pas de candidats. Il n'y a pas d'infirmiers ou d'aides-soignants qui viennent prendre des postes à l'hôpital public. Il y a également un certain nombre de personnes qui sont absentes, alors pour plein de raisons, souvent parce qu'elles ont le Covid, et dans ce cas-là, ça fait 10 jours, au moins 10 jours d'absence, et puis il y a aussi des pathologies plus longues, on a les congés de maternité qui ne sont pas remplacés, etc., etc. Donc effectivement, ça pèse beaucoup sur le système de soins, ces fermetures de lits. Et ce d'autant que c'est pas comme la première vague où on n'avait que du Covid, c'est que maintenant, on a toutes les autres pathologies. Et par exemple, dans le service que je dirige, où on a une petite quarantaine de lits, eh bien, depuis le début de l'épidémie, on a au minimum 10 lits consacrés au Covid, alors qu'avant, on prenait toute autre sorte de pathologie. Et puis là, on est passé maintenant à la moitié de nos lits en Covid. C'est autant de lits qu'on ne peut pas consacrer à la prise en charge d'autres pathologies. Donc, où est-ce qu'ils vont, les patients qui sont malades d'autres choses? Eh bien, souvent, ils traînent la pathologie traîne, oui, à être prise en charge, et ça pèse encore plus sur le système de soins, en particulier sur tout ce qui entoure l'hôpital.
Pas de débat sur la vaccination, pas assez, nous dit Mireille. Alors on arrive à la toute fin, j'imagine que la réponse ne va pas la satisfaire, mais si j'ose dire, la science a tranché.
Oui, je pense que il n'y a pas de débat contradictoire à avoir, parce que la science, ce n'est pas qu'une affaire de débat. La science, c'est une affaire de progression progression dans le temps de l'acquisition des connaissances scientifiques. Et au bout de 24 mois de confrontation à l'épidémie, on a acquis beaucoup de connaissances en termes de prévention, et on sait que ce sont les mesures non pharmaceutiques comme le port de masque, la distanciation sociale, etc. qui marchent. Les vaccins, on a montré que ça avait un impact majeur sur les hospitalisations et les décès. Et puis ensuite, les traitements. Certains traitements ont montré leur efficacité et d'autres traitements ont montré leur inefficacité dans des études bien conduites. Donc je pense que maintenant l'horizon thérapeutique s'est vraiment éclairci et on sait beaucoup mieux ce qui marche et ce qui ne marche pas.
Merci Karine Lacombe d'avoir répondu aux questions des auditeurs. 13h45.
France Inter, le 13-14.
À suivre dans 10 minutes le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Les fins d'année ne sont pas toujours faciles en famille, en témoigne un journal intime
d'un grand historien qui n'était pas à l'aise avec cette période.
Le feuilleton avant cela, une semaine dans la vie du prêtre Stéphane Lesson, et tout de suite la musique. Bonjour Anna Sigalevitch.
Bonjour Bruno.
La vie serait moins belle sans. Pendant ces vacances de Noël, vous nous proposez cette série de chroniques. Des personnalités nous parlent de musique classique. Qui aujourd'hui ?
L'actrice et réalisatrice Nicole Garcia. Pour elle, la vie serait moins belle sans... Bonjour Nicole Garcia.
Bonjour Anna.
Qu'est-ce qu'on entend ?
On entend le très beau concerto pour violon, violoncelle et piano de Beethoven.
Par qui ?
En soliste Nicolas Ankelich, Anne Gastinel et Gil Shaham, et dirigé par Paavo Järvi.
Vous avez choisi cette version précise, vous m'avez dit je veux cette version et pas une autre, pourquoi ? Oui.
On me l'a fait écouter un jour et j'en avais écouté d'autres, et celle-là je la trouve tellement... tellement parfait, tellement, comme on dit, d'une version qu'elle est miraculeuse. Et c'est vrai que c'est une pièce à laquelle je reviens souvent, je ne sais pas pourquoi. Elle me donne une émotion très particulière. D'abord, on peut s'y installer parce qu'elle est une forme longue. C'est un peu toute la dramaturgie qui est proposée par la musique elle-même. C'est une matière que je trouve tellement riche de tant de facettes. Il y a la douceur des mélodies, puis tout à coup, il y a des urgences. Et ça peut même devenir martial, asséné. Et après, une tendresse qui est si déchirante... Comme si Beethoven avait réussi à saisir la faille dans ce monde, et c'est cette faille qui fait d'ailleurs supporter tout le reste. Je trouve qu'on rentre avec cette musique dans quelque chose de nécessaire, et si je peux risquer une comparaison avec le cinéma, je dis que parfois quand on écrit un personnage, on le bâtit, on le creuse, jusqu'à, à mon aide, à découvrir sa part d'autonomie. Et c'est un peu ça avec cette musique, il y a quelque chose qui est comme autonome et qui là aussi se bâtit.
Mmh.
Et ce qui me plaît aussi, c'est que cette seule matière sonore, quoi, qui est la musique, c'est un peu à l'égal de la vie. On passe par des moments assez sombres et plus légers, voire même joyeux. Et puis ça revient à quelque chose de plus sombre, de plus tourmenté, de plus tragique, comme une roue, comme la vie même.
Et comme actrice, donc vous jouez hein, toute cette saison Royan de Marianne Diaye, mise en scène par Frédéric Bellier-Garcia. Est-ce que ça vous arrive d'écouter, par exemple, ce triple concerto avant d'aller au théâtre, dans la journée, dans votre loge, ou est-ce que c'est vous vous préparez, vous vous concentrez plutôt en silence, Nicole Garcia?
Oui, ça c'est un de meilleurs moments et de meilleures manières de faire arrêter tous les autres bruits de la ville, et les bruits aussi qui nous sont plus intimes, tout avec la musique avant d'entrer sur scène, avant de faire ce sas, non pas dans le silence, mais avec la musique. Le silence est encore est souvent impossible, il laisse passer encore trop de bruit, alors que la musique vous enferme vraiment, et on peut choisir comme ça quelle est sa geôle.
Vous avez déjà écouté le triple concerto en vous préparant pour Royan?
Je l'ai écouté, oui. Pas plus tard qu'il y a deux jours, et je recommencerai sûrement au Théâtre de la Ville à l'écouter dans ma loge, absolument, parce que de passer directement de ce triple concerto de Beethoven et après ne plus parler et arriver en scène, où il y a quelque chose qui prépare à tout, quoi, à cet imaginaire, à quitter le port, à quitter le quai.
Avec quel mouvement de ce triple concerto de Beethoven, vous avez envie qu'on se dise au revoir, Nicole Garcia?
J'ai pas envie qu'on se dise au revoir, non. Mais on va se dire au revoir avec le deuxième mouvement, l'Argo, si vous voulez bien.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Merci.
Nicole Garcia, amatrice de Beethoven. On la retrouve par ailleurs à partir du 17 janvier, Théâtre de la Ville à Paris, dans Royan, la professeure de français de Marie Ndiaye. Merci Anna.
Merci Bruno.
Merci Anne Wenfel pour la réalisation de la chronique. Demain,
l'auteur de bande dessinée Jules.
À demain. À 13h51, deuxième épisode de notre feuilleton signé Jérôme Cadet. Une semaine dans la vie d'un prêtre, Stéphane Lesson. Il a 50 ans, il exerce à Saint-Renan, Nord-Finistère. Vous allez voir, il a le tutoiement facile. Étant donné le manque de prêtres aujourd'hui, son terrain d'action est très vaste. 25 communes, cela couvre les îles de Molène et Ouessant, et des églises qui se dépeuplent.
Où va-t-on, Stéphane?
Bien, on va à la messe, puisque nous sommes mardi soir, et il est 18h presque 30, et tous les mardis soirs, il y a la messe en semaine. J'aime bien aller à pied parce que ça me fait faire une... Enfin, je me vide un peu la tête avant de commencer à célébrer.
Combien de messes par semaine?
Sur la paroisse?
En tout, ouais.
Bon, ben, écoute, en moyenne, il y a 3 messes par jour. Et plus le samedi soir, 2, et le dimanche, on est à 7. Ben, tu fais le compte, moi je suis nul en maths.
Et toi, tu en célèbres combien?
Une par jour. J'essaye de célébrer quand même avec les fidèles le plus possible, mais comme il y a d'autres prêtres, des fois, on se partage aussi la charge. Parce que je peux avoir des célébrations, comme des funérailles, ou d'autres messes dans la journée, qui ne sont pas prévues forcément. Voilà, on est devant la porte de l'église. À peu près une messe de semaine. Je...
comprends pas qu'il n'y ait pas plus de monde d'ailleurs, comme c'est plus court.
Le constat, c'est quand même que les églises, elles se vident sur ces dernières années.
Oui, c'est clair, oui. Pour moi, si tu veux, l'église est à un tournant. C'est vrai qu'il y a une baisse de la pratique religieuse, notamment des personnes âgées. Il y a toute une génération qu'on ne voit plus. Alors le Covid n'a pas aidé. À un moment donné, on ne pouvait plus pratiquer à l'église. Des gens ne sont pas revenus, des gens sont devant leur télé le dimanche. Je ne juge pas ça du tout. Mais si on veut un minimum de vie paroissiale et de vie de foi, il faut quand même venir à l'église. Il y a quand même quelque chose qui se vit là et qu'on ne peut pas vivre ailleurs ou chez soi face à sa télévision. Quoi. Ça, c'est pas possible.
J'ai bien entendu accueillir les hors-la-loi, les exclus, les égarés, quelle que soit leur origine, leur classe sociale.
Oui, tu as bien entendu. C'est ce que j'ai dit à travers l'homélie, parce que je me suis inspiré de l'évangile de ce jour. On lui dit, mais s'il y en a une de perdue, dit Jésus, moi je vais la chercher. Et bien, il nous invite à faire pareil, quoi. L'Église a cette charge-là, et c'est sans doute une de ses plus belles charges, de veiller sur ceux que personne ne regarde, quoi, si tu veux, de veiller sur ceux qui ont du mal à vivre, les petits, les faibles, d'aller voir, eux, ce qu'ils ont à vivre et ce qu'ils ont à faire.
C'est pas de la politique, ça ?
J'ai pas l'impression. Non, en tout cas, pour moi, ça n'en est pas. Moi, j'applique ce que dit le Christ. Je crois pas qu'il ait voulu faire de la politique.
Une semaine dans la vie du prêtre Stéphane Lesson, feuilleton de Jérôme Cadet, réalisation Lucie Lemarchand.
France Inter. Le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Les fêtes de fin d'année sont souvent présentées comme des moments de rassemblement. Ça n'est pas toujours le cas. En témoigne un document que vous avez lu attentivement.
Oui, un journal intime d'un grand historien, c'est rare, pas un exercice d'égo-histoire dirigé. Et ce grand historien s'appelle Jean Jacquard. Il est connu d'un vaste public pour ses biographies de François Ier et du chevalier Bayard. Ses travaux d'histoire rurale en Île-de-France ont mené à une chaire en Sorbonne, à la présidence de plusieurs sociétés savantes. Sa réussite temporelle, comme il disait, l'étonnait lui-même, car pour le reste...
Eh bien, le reste, on le découvre notamment avec ce qu'il note dans son journal chaque fin d'année.
Ce sont des carnets de jeunesse et qui commencent en 44. Autant dire que pendant les fêtes, on ne festoie pas dans la famille de Jean Jacquard. Il va en car de Paris jusqu'à Morangis et dans le clapier de ses grands-parents, il prélève un lapin. Et la bête aux longues oreilles fait l'essentiel du repas de Noël en 44, puis une autre en 45, 46, etc. Jean, c'est un jeune homme fervent qui a été converti par le curé de Saint-Gervais en 1943. En 45, il vit sa première messe de Noël. Éblouissement. En 1946, c'est son premier réveillon de Noël dans la tour de Saint-Gervais, en compagnie d'autres étudiants catholiques en tout bien, tout honneur.
Bon, mais le journal du jeune homme qui a maintenant 20 ans témoigne d'autres émois. 1948, sa mère découvre le texte et le lit.
Alors la scène a dû être terrible. La mère et le fils unique ne vont pas s'en remettre. « Comment ? Tu aimes les garçons ?» dit la mère, qui voit là une maladie, comme le fils d'ailleurs à cette époque. Et les notations de fin d'année marquent la difficulté grandissante à fêter Noël en paix. 26 décembre 45, je suis rentré avec B qui m'a parlé de ses amitiés particulières. Alors le nom de B est biffé avec énergie. 29 décembre 46, communié à la messe à Saint-Gervais, après m'être purifié l'âme par une bonne confession. Encore faudrait-il, ajoute-t-il, ne pas s'écarter aussitôt du bon chemin. 28 décembre 47 maintenant, pas communié ce matin. À quoi bon, puisque le mal est là, qui rôde et me saisit. Et Jean d'évoquer une autre joie que celle de l'Eucharistie, celle de serrer un corps entre ses bras.
Et la vie de Jean Jacquard est compartimentée, les cahiers de son journal sont cachés.
L'inquiétude de sa mère est devenue inquisition, et quand il rejoint sa famille pour les fêtes de fin d'année, il laisse les cahiers dans sa chambre de l'école normale supérieure. Alors son journal lui manque. Dans cette occasion, il aimerait pouvoir continuer à s'adresser à lui, pendant que sa mère et sa grand-mère se disputent de plus en plus à mesure que se déroulent les jours dits de fête. On est quelques-uns à connaître ça. Il rêve d'ajouter au journal un roman où il pourrait dire sa pauvre vie écartelée. Mais exposer son secret, c'est s'attirer trop de dangers. Ceci, par exemple, à propos d'une jeune fille amoureuse de lui. « J'ai fait l'imprudent aveu de ma vérité profonde. » Stupeur J'espérais que cette confession la détournerait de moi par dégoût, mais voilà qu'elle veut me sauver. Au secours ! Jean fuit à toutes jambes.
Bon, c'est le journal intime d'un historien, c'est de l'histoire ancienne. Ce monde d'interdits dans lequel il s'est débattu semble un continent englouti.
En est-on si sûr ? Les transformations en matière de mœurs peuvent parfois être réversibles. Songez à ce qui s'est passé en Allemagne. On est passé d'une grande liberté dans les années 20 aux normes familiales les plus strictes dans les années 30. Mais c'est sûr, les grandes structures sociales d'encadrement ne peuvent plus imposer leurs règles, à commencer par l'Église, surtout depuis qu'on mesure ce qui s'y passe clandestinement. Mais même si on n'entend plus les scrupules qui étouffaient Jacquard, il reste la question qu'il posait sans cesse. Coucher avec Bruno, est-ce que c'est un moment anodin ou est-ce que c'est un geste sacral, c'est ainsi qu'il le désignait, qui engage tout l'être. Alors on lui souhaite d'avoir parfois trouvé la réponse, même brièvement.
Jean Jacquard, journal Carnet de jeunesse 1844-1966. C'est une édition, c'est aux éditions du Comité national des travaux historiques. Bonjour Mathieu Vidard.
Hello Bruno.
Quel est le programme aujourd'hui ?
Eh bien on va mettre du bleu électrique dans la Terre au carré avec un papillon star, le Morpho.
La Terre au carré avec papillon, tout de suite.